France Musique.
Alors moi, il m'épate pas.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Mazette. Quelle musique ! Aujourd'hui, quatrième dimanche du mois, suivant les conseils éclairés, bienveillants et fermes de la direction, nous tentons d'élever le niveau culturel de l'émission avec un sujet à la fois intemporel et d'actualité, un thème multipartisan, collectif, national, qui pourra aussi conduire certains et certaines à s'interroger sur leur destin personnel, un sujet culturel et très musical. Au Panthéon. Au Panthéon, c'est parti.
Thank you.
de François-Joseph Gossec, musicien très emblématique de la fin de l'Ancien Régime, directeur du Concert Spirituel, de l'Académie Royale de Musique, c'est-à-dire l'Opéra, de l'École Royale de Chant aussi, puis compositeur officiel des régimes révolutionnaires successifs, fondateur du Conservatoire National de Musique. De Gossec, donc, nous entendions le début de l'offrande à la liberté, Pot pourri cousu main en 1792. Cela commençait avec « Veillons au salut de l'Empire », l'Empire au sens de la nation, et surtout pour faire la rime « Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos lois, si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois ». Poème d'Adrien Simon-Bois, chirurgien chef de l'armée du Rhin. On espère qu'il était meilleur chirurgien que poète, d'ailleurs. Vous aurez reconnu ensuite l'hymne des Marseillais, la Marseillaise, la Carmagnole et « Saïra ». Nous allons essayer aujourd'hui, en musique bien sûr, de répondre à de nombreuses questions qui nous taraudent. Comment entrer au Panthéon? Est-ce une situation confortable? Peut-on en sortir? Quelle musique choisir pour cette apothéose, lugubre ou joyeuse? Est-il vrai qu'il n'y a aucun musicien au Panthéon? Et autant ne pas faire durer le suspense, c'est faux, c'est vraiment le parangon de la fake news incrustée dans la toile, nous y reviendrons. Comment cela se passe-t-il pour les infortunés que la Providence et le hasard ont défavorisés, à tel point pécaïr qu'ils ne sont pas français, etc., etc. De Gossec, c'était le début de l'hymne sur la translation du corps de Voltaire au Panthéon. Parole de Marie-Joseph Chénier, grand poète, un peu délaissé par la muse ce jour-là, me semble-t-il, et avec un sextuor comprenant deux hautbois, deux cors, deux bassons, c'est-à-dire la formation instrumentale type de la musique de divertissement de cour, par exemple celle de la plupart des divertimenti écrits par Mozart pour son maître Colloredo, prince archevêque de Salzbourg. Le 11 juillet 1791, Voltaire n'était pas le premier à rentrer au Panthéon, mais il fut le premier à y rester. Lorsqu'à la Restauration, on proposa à Louis XVIII de retirer Voltaire du Panthéon, redevenu sous l'Empire l'église Sainte-Geneviève, le roi s'exclama « Laissez-le, il est bien assez puni d'avoir à entendre la messe tous les jours ». Voltaire avait été précédé par Mirabeau le 4 avril 1791, deux jours après sa mort. La décision de l'Assemblée constituante de transformer la nouvelle église Sainte-Geneviève en Panthéon de la Nation datait du matin même de ce 4 avril. Mais Mirabeau n'y resta pas. L'ouverture de la fameuse armoire de fer des Tuileries livra la preuve qu'il s'était laissé stipendier par la cour et son cercueil fut évacué par une porte latérale le jour de 1794 où celui de Marat gravissait en grande pompe les 11 marches du péristyle. On peut donc entrer et sortir du Panthéon, couvert d'indignité, ce qui fut le sort un an plus tard de Marat et puis de deux autres révolutionnaires dont nous tairons le nom par respect pour leur descendance. On peut donc y entrer, en sortir, on peut également devoir y entrer et ne jamais y pénétrer. Ce fut le sort fâcheux du général de Beaurepaire, dont le transfert décidé par l'Assemblée législative en septembre 1792 et organisé avec moult poésie et musique de qualité variable, n'eut jamais lieu, faute de remettre la main sur ses restes qui étaient inhumés à la va-vite et on ne savait plus très bien où, dans le cimetière du château à Sainte-Menehould. C'était un peu ballot. La vie n'est pas toujours facile, la mort non plus. troisième et dernière pour aujourd'hui, œuvre de Gossec. J'espère que ses admirateurs, il y en a, paraît-il, y ont pris du plaisir, bien qu'il s'agisse de la marche lugubre pour les honneurs funèbres qui doivent être rendus au champ de la Fédération le 20 septembre 1790 aux mânes des citoyens morts dans l'affaire de Nancy. Voilà qui est complet. Cette marche lugubre fut également jouée pour l'apothéose panthéonesque de Voltaire en 1791 et puis fut jouée par la suite à de très nombreuses reprises pour les cérémonies de transfert jusqu'à l'entrée au Panthéon de Jean Moulin par un son jour de décembre 1964. Je vous propose d'écouter des extraits du très justement fameux discours d'André Malraux, suivi du chant des partisans. Nous n'entendrons jamais les oraisons funèbres déclamées par Bossuet, bien sûr, mais là, nous avons le témoignage sonore d'un moment d'histoire, un geste politique également, surtout un grand moment d'art de la déclamation, de l'éloquence de la langue française dans ce qu'elle a ou avait de dramaturgique, avec un incomparable impact théâtral, émotionnel et même musical.
Monsieur le Président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France sauraient son nom ? Il ne le retrouva lui-même que pour être tué, et depuis sont nés 16 millions d'enfants. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Dynamite. qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, il s'en va, séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez vos bagnons dans la nuit, la liberté nous écoute.
D'autres marches funèbres que la marche lugubre de Gossec furent jouées pour les cérémonies de transfert, notamment des extraits de la symphonie funèbre et triomphale de Berlioz, ou la marche funèbre de la symphonie héroïque de Beethoven, ou encore la marche funèbre de la deuxième sonate de Chopin. On entendit aussi l'aria de la troisième suite pour orchestre de Bach, la sarabande de la cinquième suite pour violoncelle. Et pour l'entrée de Malraux lui-même en 1996, ce fut la très peu laïque mais sublime prière du Christ montant vers son père d'Olivier Messiaen. Pour le transfert de Simone et Antoine Veil en 2018, par une radieuse journée estivale, le programme musical était assez original et sensible et il comprenait notamment ce beau, triste, lumineux chant traditionnel juif dans le souvenir de Schubert, arrangé avec la complicité de Franz Krafcik et interprété, et avec quel art, quelle émotion, par Sonia Wider-Atherton. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'heureuse entrée très prochaine de Joséphine Baker, il n'y aurait donc pas de musiciens dans le Panthéon de Paris. Grâce au travail de la cellule secrète d'investigation de France Musique, nous allons tantôt démentir cette affirmation et faire rentrer cette fake news dans la gorge de ceux qui la propagent, sans abreuver nos sillons de leur sang impur tout de même. Mais avant cela, portons nos regards et notre oui au-delà des frontières nationales. Qu'en est-il ailleurs ? Nul n'ignore que le Panthéon de la Grèce antique, l'Olympe, ne comprenait qu'un unique musicien professionnel, Apollon, avec sa lyre et sa cithare. On sait qu'Athéna avait appris à jouer de la cithare et aurait inventé l'holos, vous savez, cette flûte simple ou double à hanches battantes. Mais selon Hésiode, cela n'excédait pas un excellent niveau amateur. Par ailleurs, nous éviterons d'appeler musique les chansons, si j'ose dire, bachiques de Dionysos. Quant aux muses, Apollon les rejoignait sur le mont Hélicon et les conduisait en apothéose au sommet du Parnasse, mais pas sur l'Olympe. Donc un seul musicien dans le Panthéon olympien, 1 sur 12. D'autres lieux ont été baptisés ou surnommés Panthéon. On me souffle le Panthéon de la bière ou le Panthéon de l'Aquazumba. Allez, nous demeurons à une certaine altitude, s'il vous plaît. Petit tour d'Europe, commençons à Londres, cathédrale Saint-Paul. Y sont inhumés plusieurs musiciens, dont l'excellent Hubert Parry, peu connu en France, mais que nous inviterons un prochain dimanche, vous verrez. Mieux encore, à l'abbaye de Westminster, le vrai Panthéon anglais, de nombreux musiciens, à commencer par celui que l'on surnomma l'Orpheus Britannicus, Henry Purcell, mais aussi son contemporain John Blow, Handel, bien que saxon, Howells, Vaughan Williams, etc. On applaudit. Oh, clap your hands, de Vaughan Williams, justement. À Prague, pas de Panthéon, mais le cimetière de Slavine, sur la colline de Vyšehrad, au bord de la Vltava, empiré des héros de l'histoire tchèque, et on y voit les tombes de Smetana et de Dvorak. 250 km au sud-ouest, en vue de Ratisbonne, surplombant le Danube, le Valhalla, non pas celui construit par Fasolt et Fafner, les deux géants, pour être le séjour des guerriers héroïques et des dieux autour de Wotan, mais une copie un peu massive du Parthénon, édifié par Louis Ier de Bavière, pour être le mémorial des illustres Germains, Germains au sens très large, puisqu'il y a des Flamands, comme Rubens et Erasme, mais aussi Catherine II de Russie, et aussi Charles X de Suède. Pas de tombe ni d'urne, mais des bustes, et parmi eux, une douzaine de musiciens, le buste de Brahms depuis 2000, celui de Richard Strauss depuis 1973, celui de Bruckner installé en 1937, en présence d'Hitler, comme le montrent les actualités cinématographiques de l'époque, etc., etc. Le premier buste de musicien installé dès l'ouverture en 1842 et même dès la préfiguration en 1810 est celui de Joseph Haydn, décédé en 1809. C'était le tremblement de terre qui conclut les sept paroles du Christ en croix de Joseph Haydn, premier musicien entré au Valhalla, presque 60 ans avant la première de l'Or du Rhin et l'entrée de Wotan dans son propre Valhalla. Franchissons les monts, passons en Italie, à Venise, pas de musicien inhumé à Saint-Marc, ni dans la basilique de San Nicolo, le panthéon vénitien. Mais Monteverdi, le plus grand compositeur vénitien, est enterré au Frari, la troisième basilique majeure de la République. À Florence, c'est l'église Santa Croce qui, depuis 7 siècles, est le panthéon florentin, panthéon toscan, puis depuis le 19e siècle, panthéon des gloires italiennes, Dante, Michel-Ange, Galilée, Machiavel, etc., etc. Et parmi eux, un des plus grands musiciens italiens, Rossini. Rossini avait été enterré au Père Lachaise à Paris en 1868, mais le gouvernement italien réclama les restes du grand compositeur et cuisinier qui entrèrent à Santa Croce en 1887, au milieu d'une foule immense qui, comme si elle était à l'opéra, bissa la prière de Moïse, extrait de Moïse en Égypte. Moïse en Égypte, c'est un opéra créé à Naples au Théâtre San Carlo. En 1818, très grand succès que Rossini reprend à Paris en français en 1827. Et cette prière de Moïse avait, si l'on en croit Stendhal et quelques autres, un effet pharaonique sur les spectatrices. Il fallut d'urgence faire venir des médecins pour les calmer. Si nous sommes tous bien assis ou étendus, écoutons cette prière de Moïse, le formidable Nikolaï Giaourov et Moïse lui-même et sa 100 ans.
Oh,
Tout le monde va bien, j'espère. Venise, Florence, Rome, enfin, avec le Panthéon, bien sûr, ce qui nous reste sans doute de plus beau et de plus saisissant, de prodigieux de l'architecture romaine antique. Une demi-sphère parfaite, 43 mètres de diamètre, et encore de nos jours la plus grande coupole en béton non armé du monde. Le Panthéon était devenu l'église Santa Maria della Rotonda et à partir de la Renaissance, elle accueillit les restes d'un très petit nombre de personnalités glorieuses, dont le peintre Raphaël et le compositeur Arcangelo Corelli, le plus fameux compositeur romain de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Son œuvre, limitée pourtant à 6 recueils de sonates et de concertos seulement, connut un succès sans précédent dans toute l'Europe et un retentissement éditorial là aussi sans pareil, au moins jusqu'à l'édition des œuvres de Haydn à la fin du XVIIIe siècle. C'est une musique rayonnante comme nous l'entendons avec ce mouvement vivace allegro adagio du 7e concerto grosso de l'opus 6 de Corelli. François Couperin, sans doute le plus grand compositeur français entre Marc-Antoine Charpentier et Rameau, était un admirateur passionné de Corelli. Il considérait sa musique comme la quintessence de l'art musical italien. Et en 1724, 9 ans après la mort de Corelli, Couperin publie au sein d'un recueil dit des nouveaux concerts, les goûts réunis, c'est-à-dire le goût français et le goût italien, une sonate, l'apothéose de Corelli, musique à programme, nous suivons Corelli, il est accueilli par les muses, il boit à la source Hippocrène surgit du coup de sabot de Pégase et qui lui donne l'inspiration artistique, il est reçu par Apollon lui-même, et il exprime ses remerciements dans un splendide fugato très libre, très jubilatoire, marqué gaiement.
Thank you.
Couperin ne nous montre-t-il pas la voie ? Plutôt que de se préoccuper de savoir si un décret va enfin ouvrir les portes du Panthéon à tel ou tel, n'est-ce pas la musique elle-même, aux compositeurs eux-mêmes, de faire entendre l'apothéose, au sens premier, l'admission d'un mortel, l'un des leurs, parmi les dieux ? 4 siècles avant qu'Aurélie et Couperin, c'est la leçon pleine d'humour et de malice que nous souffle Bernard de Cluny, disciple et grand admirateur de Guillaume de Machaut. Il compose « Panthéon ablouitour », c'est notre sujet. Une musique très savante, à 5 voix. La teneur, le ténor, chante en notes très longues sur l'antienne « In omnem terram » dans toute la terre. S'y ajoute, avec des mélodies indépendantes, une ligne instrumentale et 3 voix. Le duplum, qui énonce que le Panthéon est le temple des faux dieux et fait un petit cours de théologie ecclésiale d'une parfaite orthodoxie. Rien à redire. Le triplum explique que la lumière d'Apollon n'est pas prête de s'éclipser et que si elle resplendit, c'est grâce à l'art musical, et de citer ses maîtres et ses contemporains, Philippe de Vitry, maître de l'Ars Nova, qui se distingue par son sens de la couleur, Renaud de Tirlemont, nouvel Orphée, Robert Dex, fougueux successeur de Machaut, Arnaud de Saint-Martin, un vrai rossignol intarissable, Geoffroy de Bareuil, à la voix pénétrante, etc., etc. Un vrai panthéon musical du XIVe siècle. Et enfin, le quadruplum, il cite les grands ancêtres, Pythagore et Boèce, et surtout il indique que Bernard de Cluny, c'est-à-dire le compositeur lui-même, qui parle donc de lui à la 3e personne, compose puissamment avec science et art, et enfin il insiste, dans le triplum, il a donné la liste des meilleurs musiciens du temps. Tout le monde chante en même temps, quelle apothéose! Panthéon ablouitour par James Bowman et Charles Brett, The Early Music Concert of London, dirigé en 1975 par David Monroe. Décidément, les boomers avaient de la chance! Mazette, quelle musique ! Poursuivons avec 2 apothéoses écrites par 2 des plus grands compositeurs du XXe siècle, sans se préoccuper d'entrer ou non au Panthéon. D'abord, la dernière pièce du ballet « Mamerlois » de Maurice Ravel, suite de 5 pièces pour piano à 4 mains en 1910, devenue en 1911 une suite pour orchestre, puis en 1912 une musique de ballet en 5 tableaux et une apothéose, et nous écoutons la fin somptueuse de cette très belle partition chorégraphique, l'apothéose, le jardin féerique. Autre magnifique apothéose chorégraphique d'un style très différent, écrite 20 ans plus tard par Igor Stravinsky pour un orchestre à cordes, c'est l'apothéose qui clôt Apollon Musagète, Apollon guide des muses, musique d'un des premiers ballets de Balanchine. L'argumenté en peu de mots, naissance d'Apollon, puis apparition des muses, qu'en apothéose, Apollon conduit au Parnasse. Nous écoutons cette apothéose qui clôt l'œuvre, 4 minutes d'une musique dense et sublime que j'en suis sûr que Shostakovich, Barber et Britten auraient aimé composer. Le jeune dieu, les muses et la musique s'élèvent vers les hauteurs du Parnasse et disparaissent dans un éther raréfié et grisant. Autre chose que le froid humide et la lumière blafarde des cryptes au sommet de la montagne Sainte-Geneviève. et Berlioz, compositeur mis à contribution pour tant et tant d'entrées au Panthéon et, ironie du sort, musicien qui attend depuis des décennies son apothéose républicaine. Régulièrement demandé, exigé même par des pétitionnaires pleins d'une sainte dévotion, régulièrement presque décidé, mais presque seulement, j'attendrai, n'attendons pas et sans en avoir ni le pouvoir ni l'autorité, décidons l'apothéose musicale de Berlioz. Me pardonnerez-vous, je me permets d'interrompre ces premières mesures de « La liberté se lève sur le monde », finale du Temple universel de Berlioz, utilisé à tant de reprises, encore en 1995, pour le transfert de Marie Curie et de son mari Pierre. J'ai un remords. Je vous propose d'écouter plutôt la pantomime du premier acte des Troyens d'Hector Berlioz, musique sans doute moins panthéonarde, si je peux oser ce néologisme, mais me semble-t-il autrement plus puissante, subtile, géniale, je crois, digne de l'apothéose d'Hector Berlioz. C'est Andromaque, la veuve d'Hector, telle la République, qui apparaît sur scène, muette. Hélas, garde tes pleurs, veuve d'Hector. Sur le coup de 3 heures. d'habitude l'heure des badineries, mais aujourd'hui un sujet sérieux nous attend, l'attente. L'attente avant d'être admis au Panthéon, et pour ne pas nous en tenir à des généralités éthérées, prenons un cas précis, non pas celui d'Hector Berlioz qui attend, mais celui de Joséphine Baker. Dans les volets, nous ferons trois petits trous pour regarder et attendrons silencieux comme de petites souris. C'est le cœur à bouche fermée qui conclut le deuxième acte de Madame Butterfly de Puccini, dans une attente plutôt confiante et, si ce n'est joyeuse, assez paisible. S'inspirant de très près de ce cœur célèbre, Dino Olivieri compose en 1935 sur des paroles de Nino Rastelli une chanson qui doit lancer le trio Lescano, Tornerai.
Sogno c'è nel mio cuore.
Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò.
Tu reviendras vers moi car tu es l'unique rêve de mon cœur, tu reviendras. La chanson ne connaît pas un grand succès jusqu'à ce que remaniée, elle soit enregistrée en 1936 par Carlo Butti, la voix d'or de l'Italie, plus tard surnommée le Sinatra italien, avec une voix quasiment de ténor léger ou de ténor di grazia, utilisant avec beaucoup de souplesse le registre de Fossé. Tornerai devient alors très vite un tube dans toute la péninsule.
Tu sai che t'amo, non ho che te, mi stai lontano, dimmi perché. La nostalgia non senti in cuor, non ti ricordi di me. Questa mia vita non può durar, tu sei fuggita, devi tornar. Questo mio cuor ti vuole ancora. Tornerai da me perché l'unico sogno sei nel mio cuore. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò.
Le succès italien de Tornerai conduit à une version française, plus saisissante, parce qu'elle commence par le refrain, c'est-à-dire la reprise note à note du chœur à bouche fermée de Puccini, et parce que le texte de Louis Portera inverse la perspective, d'une quasi-injonction « tu reviendras » à une affirmation « j'attendrai ». J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour, j'attendrai. Reste à trouver la voix, ce sera celle de la jeune ligure Cesarina Pichetto, sur scène Rina Ketty, qui avait appris le métier en se produisant dans les cabarets de Montmartre avec des chansons de Théodore Botrel ou d'Yvette Guilbert, et qui avait obtenu de premiers succès au disque avec des reprises de chansons italiennes. Avec « J'attendrai », elle devient une grande vedette, iconique, dirait-on, aujourd'hui.
J'attendrai
J'attendrai, chanson emblématique, y compris hors des frontières, pendant toute cette période jusqu'à la libération, où l'attente, et en particulier l'attente du retour, est le lot de temps et temps. D'autres s'y mettent, Tino Rossi, on a les ténors que l'on mérite, Jean Sablon, Stéphane Grappelli, Django Reinhardt, 30 ans plus tard ce sera Dalida, plus récemment encore Martial Solal. J'attendrai est devenu un standard. Mais à mes oreilles, la plus belle version est celle-ci, avec une voix pleine, souveraine, puissante, et le sentiment d'une attente plutôt confiante, paisible, presque joyeuse, comme dans Le cœur à bouche fermée de Madame Butterfly.
J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours. Ton retour, j'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant dans mon cœur plus lourd, et pourtant j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse de son prélat. Je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, je coûte en vain. Hélas, plus rien ne vient. Tournera.
C'est Joséphine Baker, peut-être sa plus belle chanson, « J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ». Pour votre apothéose, plus que deux jours et deux nuits, madame.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Nous revoici sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Certaines entrées au Panthéon sous la Troisième République ont laissé des traces dans l'histoire et dans la mémoire collective, alors que le Panthéon avait servi de quartier général de la Commune en mai 1871. Les funérailles de Victor Hugo et son entrée au Panthéon furent à la fois une bataille politique pour profiter de l'occasion après plusieurs échecs pour désacraliser le Panthéon et un événement populaire majeur. Presque 36 heures ininterrompues de cérémonies recueillies, de réjouissances, de ferventes oraisons funèbres, de débordements orgiaques aussi pendant la veillée à l'étoile, selon les historiens, entre 1 et 3 millions de personnes, mais rien de très musical. Autre grand moment populaire, le transfert des cendres de Zola au Panthéon fut décidé en 1906, juste après l'arrêt de la Cour de cassation annulant la condamnation de Dreyfus. Mais ce n'est qu'après deux années de violents combats menés par Jaurès et Clémenceau d'un côté et par Barrès notamment de l'autre qu'eut lieu la cérémonie le 4 juin 1908 dans un contexte passionnel exacerbé. Deux témoignages musicaux du climat de ces cérémonies. Tout d'abord, et c'est un document d'archives, vous allez l'entendre, un extrait de Zola au Panthéon, deux et par Théodore Beautrel. Israël. Zola, dans des pages lubriques, nous montre un tas de dévoyés, de débauchés, des alcooliques, et dit « Voilà les ouvriers, non, brave ouvrier, non, travailleur, tu n'es pas là ». Dans l'œuvre de Monsieur Zola, Nana l'assommoir ou Pobouille, non, Coupeau le triste arsouille, crois-moi, brave ouvrier, ce n'est pas toi. Et puis, d'Alfred Bruno, élève de Massenet, qui connaît aussi son Wagner, le prélude de Messidor, opéra socialiste et naturaliste, sic, composé sur un livret de Zola, musique solennelle sans être pompeuse, ni pompière, passionnée, bien menée, belle, me semble-t-il. Accrochons nos oreilles, Botrel, puis Bruno.
Zola au Panthéon. Chanson d'actualité par Théodore Botrel. Zola dans des pages lubriques nous montre un tas de dévoyés, de débauchés, des alcooliques, et dit voilà les ouvriers. Non, brave ouvrier, non, travailleur, tu n'es pas là. Dans l'œuvre de Monsieur Zola, Nana l'assommoir ou Pobouille. Non, Coupeau, le triste arsouille, crois-moi, brave ouvrier, ce n'est pas toi.
Thank you.
L'entrée de Jaurès au Panthéon en 1924, 10 ans après son assassinat, fut décidée par le gouvernement du cartel des gauches et violemment contestée à la fois par les ennemis de Jaurès avant-guerre et l'Action française, avec contre-manifestations, discours virulents de Léon Daudet, mais également par les communistes opposés à la confiscation du corps de Jaurès par le cartel aux dépens des travailleurs sikhs. Dans son roman La Conspiration, Paul Nizan décrit de manière saisissante cette journée de cérémonie et de très forte tension, la marée humaine, sans doute un demi-million de personnes dans le cortège officiel, plusieurs centaines de milliers dans le contre-défilé organisé par le Parti communiste, avec le chant de l'International qui souvent couvrait les musiques officielles. Dans le Panthéon, clos par peur que la nef soit envahie par les manifestants communistes, la cérémonie se termina par le chant d'apothéose, composé par Gustave Charpentier, le compositeur de Louise, ami aussi d'Alfred Bruno. Vous allez l'entendre, cela ne commence pas trop mal, mais étant donné la qualité sonore relative du document, nous éviterons d'aller trop loin. Il n'est pas impossible d'ailleurs que la pompe et même le pompier nous rattrapent si nous continuons. Le dicton chouant la musique panthéonesque est à la musique militaire, ce que la musique militaire est à la musique, aurait-il un fondement ? La correspondance de 15h21. La correspondance de 15h21 nous conduit tout simplement à l'apothéose. Quelle musique pour les apothéoses d'aujourd'hui ? Pour l'entrée au Panthéon de Paris de Joséphine Baker, 6e femme seulement à y entrer, nous saurons le 30 novembre ce qu'il en sera. Mais son apothéose a déjà eu lieu à Paris depuis de nombreuses décennies. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par eux toujours, mon cœur est ravi. Et les années passant, certains auront remarqué que mon pays et Paris est parfois devenu mon pays, c'est Paris. Le précédent transfert au Panthéon, celui de Maurice Genevoix, a eu lieu le 11 novembre 2020, 100 ans après l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, et en honorant l'écrivain Genevoix, c'était aussi l'apothéose de tous ceux de 14. Pour l'occasion, le compositeur Pascal Dussapin avait écrit en symbiose avec les œuvres du plasticien allemand Anselm Kiefer, qui était installé sous le dôme du Panthéon, une œuvre musicale intitulée « In nomine lucis, au nom de la lumière ». Vous avez peut-être entendu cette œuvre qui n'est ni un fond ou une illustration sonore, mais une belle musique de création contemporaine, une musique d'apothéose de notre temps, très émotionnelle, pleine de consolation. Nous souhaitions diffuser un extrait de cette œuvre et nous l'avons demandé à Pascal Dussapin. Il nous a répondu que In nomine Lucis ne pouvait sortir du Panthéon. L'œuvre est par contrat, mais surtout parce que c'est l'intention profonde du compositeur, une musique qui ne peut être écoutée que sur place, au Panthéon de Paris. Ainsi, pour la première fois, la musique est entrée vraiment de manière pérenne au Panthéon et d'une certaine façon fait partie, fait corps avec ce lieu si emblématique de la nation. Donc, pas de In nomine Lucis dans Mazette, mais sur une suggestion de Pascal Dussapin, nous avons choisi un extrait d'une autre œuvre vocale, Granum Sinapis, grain de Senevé ou de moutarde, comme on veut, sur un texte du théologien et mystique rhénan Maître Eckhart. Il s'agit de la deuxième partie, des deux, un fleuve d'amour, le feu, qui m'a rappelé, disons, l'impression que m'avait laissé en novembre 2020 In nomine Lucis. Laurence Equilbé dirige le chœur Accentus. Autre œuvre magnifique, qui sans lien avec le Panthéon, celle-ci est aussi une musique d'apothéose d'aujourd'hui, amicale, admirative, magistrale. Il s'agit de B Partita de Philippe Manoury, compositeur lui aussi bien vivant et vif créateur. Nous allons écouter un bref extrait de cette musique, composée pour violon et ensemble instrumental, avec un traitement électronique en temps réel et toutes les efflorescences que cela permet. Vous allez l'entendre, il y a là de la maestria et de la poésie. B partita, B comme la note B dans la notation allemande de la musique, c'est-à-dire le si bémol, quasi omniprésent, pour ainsi dire incantatoire. B comme Boulez, qui trouve ici plus qu'un simple hommage, comme une apothéose musicale, composée par Manoury in memoriam Pierre Boulez, juste après la mort de celui-ci, en 2016.
Thank you.
France Musique, Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou.
Nous parvenons au terme de notre émission et je crois que les réponses ont été données à presque toutes les questions. Ah oui, c'est vrai. Nous n'avons pas élucidé le mystère du compositeur au Panthéon, mais dont l'existence et la présence sont ignorées. Si je précise qu'il est entré au Panthéon après 3 jours de réjouissance et accompagné par un grand cortège joyeux où résonnaient des airs d'un de ses opéras, opéra qui avait connu un triomphe inexpliqué, mais un succès prodigieux, en 1752 à la cour de Louis XV, puis à celle de Louis XVI, comme à l'Opéra de Paris, jusqu'en 1829, et qu'il avait attiré pour ceci les plus grands chanteurs de son temps, par exemple Pierre Géliot et Marie Fell. Vous ne devinez apparemment pas. Cet opéra, c'est le devin du village et notre compositeur auquel, contrairement à presque tous ses contemporains, la postérité n'a pas reconnu de génie musical, fut aussi philosophe, romancier, dramaturge, chorégraphe, encyclopédiste, essayiste et pamphlétaire, oui, botaniste, musicologue, pédagogue, naturaliste, politologue et même, avant l'heure, anthropologue et ethnomusicologue. Ce n'est autre que le Genevois Jean-Jacques Rousseau, entré au Panthéon le 20 Vendémiaire de l'an 3. 11 octobre 1794, accompagné par ce duo du devin du village, dont nul n'ignorait alors les paroles et la musique.
Allons danser sous les réseaux grands, animez vos jeux de fillettes. Allons danser sous les réseaux grands, que prenez vos chalumeaux.
Allons danser sous les réseaux grands, animez vos jeux de fillettes. Allons danser sous les réseaux grands, que prenez vos chalumeaux.
Remets ton père une chambre sonnette, et pour avoir
à la ville, on fait bien plus de fracas, mais sont-ils aussi gais dans leurs ébats? Toujours contents, toujours chantants, mais ils s'en allent, beauté centrale, où la conserve allait-il nos musées?
Allons danser sous les autres, animez tous les fillettes, allons danser sous les autres.
Tout va bien. La parité sera donc bientôt respectée au Panthéon. S'agissant des musiciens, Joséphine va y rejoindre Jean-Jacques. Quant à tous celles et ceux qui n'y sont pas, c'est dans la musique elle-même, et si possible la bonne, qu'ils trouveront leur apothéose. L'émission se termine et nous quittons donc à regret l'empiré et les apothéoses musicales d'hier et d'aujourd'hui. Sur les pages Mazette, quelle musique, sur le coup de 3h et la correspondance de 15h21 du site de France Musique, se trouve toute la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédé. Dans l'éther grisant des apothéoses et le froid glaçant des cryptes, la fine équipe avec moi rassemblée, pas moins que Nelly Portal, Philippe Mercher et Laurent Lefrançois lui-même. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Le thème sera, me dit-on, la dernière année. Bien. Est-ce que c'est un bon thème pour le 5 décembre 2021? Méditons, discernons. Excellente semaine sur France Musique, dans moins d'une minute brute d'accordéon, avec Félicien Brut, qui sûrement un jour entrera au Panthéon. Prenons-en le pari.
À réécouter sur francemusique.fr.